Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz and Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun qui nous parlent de leur bouquin de l'humour juif qui vient de paraître dans la collection Bouquins. Bonsoir Judith et Jonathan.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Sandrine.
Vous êtes des habitués des lieux hein, ici, on peut le dire maintenant.
Ah bah oui, on est toujours très heureux de venir vous rencontrer, toute l'équipe, Bernard, et bien sûr de converser de manière aussi sympathique et intéressante avec toi.
Alors évidemment, nos pensées restent tournées vers l'État d'Israël. Chaque jour arrive avec son lot de mauvaises nouvelles, mais heureusement, la vie et la destinée du peuple juif continuent, et puis on est absolument ravis de vous recevoir pour cette actualité, hein, le bouquin de l'humour juif, mais quelques mots de présentation de tous les deux auparavant. Je pense que tout le monde vous connaît maintenant, hein, parmi les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom. La psychanalyste et psychologue clinicienne a croisé le réalisateur et documentariste à l'Union des étudiants juifs de France il y a quelques années. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me trompe?
Je m'attends. C'est tout à fait juste.
Et depuis, on ne compte plus les livres, les documentaires de tout genre et sur tous les sujets que vous écrivez à quatre mains. Il y a eu récemment le documentaire « Psy de l'autre côté du divan » ou la bande dessinée « Joseph Kessel indomptable ». Mais ce qui nous vaut votre présence aujourd'hui, c'est la parution de ce nouvel ouvrage que vous avez coécrit, on l'a dit, « Le bouquin de l'humour juif » dans la collection « Bouquins ». C'est vraiment et précisément le livre que l'on a envie de feuilleter en ce moment, compte tenu de l'âpreté de l'actualité. Alors la première question qui s'impose, pourquoi ce sujet ? Un sujet en plus qui pourrait être considéré comme un marronnier dans l'édition et dans la presse, ce sujet de l'humour juif.
Déjà tout simplement parce que c'est une proposition de notre éditeur. Une proposition qui remonte à il y a longtemps. Le hasard du calendrier fait qu'il sort en effet dans un moment où cela devient quelque part salutaire de pouvoir aussi rire et rire à partir de la tradition juive. Mais le projet remonte à il y a 4-5 ans, avant même que nous nous penchions sur l'histoire de l'antisémitisme en documentaire. Et quelque part, c'est parce que nous avons réalisé et coécrit l'histoire de l'antisémitisme sur Arte, la série documentaire, que nous sommes sentis autorisés ensuite à pouvoir nous replonger à travers les siècles. Mais cette fois-ci, nous nous penchons du côté de ceux qui luttent contre l'antisémitisme, notamment par le rire.
Est-ce que vous partagez cette analyse, Judith ?
Ah bah oui, déjà il y a une manière de parcourir l'histoire juive à travers les histoires juives et l'humour juif, ça c'est sûr, puisque on pourrait dire que l'humour juif c'est un petit peu ce que Freud appelait cet esprit, ce quelque chose d'un peu particulier qui caractérise l'identité juive, puisque c'est assez indéfinissable, bien que beaucoup de gens aient essayé de le définir. Mais au fond, l'humour juif, ça marche pas mal pour montrer quel est le rapport au sens de la vie, le rapport au quotidien, le rapport évidemment au tragique que les juifs entretiennent au fil de l'histoire et de l'histoire pas toujours très agréable, dont l'histoire de l'antisémitisme que Jonathan évoquait tout à l'heure.
J'aimerais revenir sur le mot marronnier que vous avez utilisé. Oui. En effet, il y a un très grand nombre d'ouvrages, et tant mieux, sur l'humour juif. Mais on a voulu apporter notre patte à nous, notre vision de cet humour et nos choix. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des histoires juives, mais également des extraits littéraires, des répliques de films, et aussi des auteurs méconnus ou oubliés. Il suffit de remonter dans l'histoire pour retrouver le premier poète andalou au Moyen-Âge qui a fait de l'humour juif, dont le premier texte attestant de l'humour juif provient de son œuvre. Et également, par exemple, quelque chose qui n'était nulle part ailleurs jusqu'à présent en termes d'ouvrage sur le sujet, c'est le premier à avoir fait de l'humour juif français, un révolutionnaire, Zelkin Horvitz, connu pour avoir gagné le concours de Metz juste avant la Révolution française, mais peu connu pour ses articles humoristiques. Donc c'était aussi d'exhumer des textes oubliés ou méconnus.
Alors on va expliquer comment s'articule l'ouvrage, parce que c'est pas uniquement des histoires drôle, mais on va instaurer quelque chose dans cette émission. Après chacune de vos réponses, je vais lire une des histoires présentes dans le livre. Alors la première, un professeur demande à ses élèves de rédiger une dissertation sur un thème volontairement vague, les éléphants. L'un choisit la place des éléphants dans la littérature, un autre sur le commerce des trompes, un troisième sur leur relation avec leur environnement. Salomon Lévy choisit les éléphants et la question juive. Ça m'amène à une question pour laquelle vous avez apporté des éléments de réponse, Judith. Je vais la poser donc à Jonathan. Depuis des décennies, on débat de la définition de l'humour juif. Qu'est-ce que ça serait pour vous, la définition ?
Tout comme pour l'identité juive, c'est une définition impossible, et tant mieux. Il y a des humours juifs, il y a des fonctions de cet humour, et il y a une manière dont les juifs ont voulu rire à travers l'histoire, mais certains veulent la cantonner à une dimension doloriste. Justement, ou à une réaction à l'antisémitisme. D'autres veulent y voir simplement une critique des figures d'autorité et une capacité à s'en prendre aux vérités toutes faites. Certains vont aussi plutôt y trouver une manière de trouver un terrain d'entente avec les non-juifs, puisque l'humour juif a une vocation universelle et qu'il a pris une autre dimension depuis l'émancipation des juifs, où en réalité, on peut rire, mais ne pas rire qu'entre soi, alors que peut-être auparavant, c'était beaucoup plus un rire entre soi pour lutter contre l'hostilité ambiante. Donc, en réalité, il est difficile de le définir, mais il est possible de l'identifier. C'est tout le paradoxe et c'est toute la particularité de cet humour. Et c'est cela aussi qu'on a voulu, nous, remarquer, situer et inscrire. Donc, et c'est pourquoi on le retrouve à toutes les époques et en faisant le tour du monde.
Une agente du Mossad a pour mission de s'infiltrer dans le mouvement terroriste libanais Hezbollah. De retour à Tel Aviv, elle raconte fièrement le déroulement de sa mission à ses supérieurs. Mission accomplie, je suis devenue la maîtresse de leur grand leader Hassan Nasrallah et son fils est désormais notre prisonnier. Mais où est le prisonnier? Je vous le présente dans 9 mois. Le livre a été terminé avant les événements du 7 octobre 2023. Est-ce que vous auriez eu envie de changer quelque chose suite à la parution? Et est-ce que l'autre question qui est son corollaire par rapport à l'histoire qu'on vient d'entendre, est-ce qu'on peut encore ou on peut déjà rire des événements qui sont presque immédiats et qu'on continue de vivre au présent?
Alors je pense pas qu'on aurait changé quelque chose, peut-être qu'on aurait rajouté quelques histoires qui circulent déjà en Israël à propos de ce qui se passe, ou bien d'ailleurs en France avec l'humour juif qui caractérise là la situation des juifs qui sont dans l'inquiétude mais aussi face à une situation particulière, notamment je pense à cette petite blague que j'ai passée qui dit oh là là, quelle période, on peut plus dire du mal des juifs sans être traité d'antisémite. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, c'est donc une manière de parler de l'actualité avec ce pas de côté et cette capacité à prendre ce qui se passe et ne pas le prendre, on va dire, en pleine face. Puisque au fond, c'est ça sans doute, la capacité de rire à ce moment-là. Et vous avez raison, immédiatement, on peut pas. Quand on est pris, on saisit dans le traumatisme, évidemment, quand on est la personne qui est en deuil, ou bah tout de suite, c'est pas possible. Maintenant, autour, quand il y a un drame qui est partagé par tout le peuple, il y a ce temps de sidération, et assez vite, la possibilité, la nécessité, ou en tout cas, ce qui caractérise peut-être le peuple juif, c'est cette idée que l'essentiel, c'est qu'il faut survivre, qu'il faut vivre. Donc, il faut se faire un pas de côté, ça veut dire ne pas prendre tout pour soi, sur soi, entendre aussi que ce qu'on dit d'une autre manière, l'antisémitisme, c'est un fantasme aussi, c'est le fantasme que les gens ont des juifs, c'est leur représentation, c'est ce qu'ils projettent de leur propre mal-être, de beaucoup de choses, hein, c'est la question du bouc émissaire, mais tout ça, si on le prend pour soi, c'est-à-dire que si on pense que quand les antisémites parlent des juifs, c'est de nous qu'ils parlent, mais ça va pas, parce que évidemment, on le prend très mal, c'est très violent, c'est très méchant, plein de haine. Je pense que l'humour, c'est aussi une manière de hop, décaler, vous voyez, comme quand le coup viendrait sur nous, hop, on le décale et on regarde qu'il est en train de quelqu'un est en train de donner un coup à, on sait pas, on va peut-être l'interroger. En tout cas, ça permet justement de pas être terrassé, de continuer tout en, évidemment, prenant il faut pas perdre conscience du danger. Mais voilà, si on pouvait peut-être l'imager comme ça.
Au large de la mer Méditerranée, deux bateaux se croisent, l'un en provenance d'Europe et rempli de nouveaux immigrants pour Israël, ravis d'accomplir le rêve des pionniers du sionisme. L'autre, au départ de Haïfa, transporte de jeunes Israéliens ayant décidé de s'installer à Berlin. Arrivés à même hauteur, les passagers des deux bateaux se regardent et s'apostrophent. Mais vous êtes fous, hein ? On va réagir, Jonathan, à ce que vient de dire Judith. Il y a un chapitre sur les blagues autour de la Shoah. On ne pensait pas, dans les années jusqu'à pas très longtemps, pour pouvoir rire de la Shoah. Ça a été un vrai débat. Mais vous avez choisi d'articuler le livre d'une certaine façon. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Comment, en fait, se présente cet ouvrage ? Comment avez-vous choisi de terminer les chapitres ? Et puis, si on peut rire de la Shoah aujourd'hui, ce qui est même salutaire, est-ce que demain, on ne pourra pas rire des événements qui nous arrive.
Mais bien sûr, il y a par exemple l'entrée Shoah, il y a l'entrée Hitler, il y a l'entrée nazi. Voilà par exemple des thématiques qui pourraient paraître improbables dans ce livre, mais l'humour juif dans tous les cas ne cesse de nous surprendre. Qui aurait cru il y a quelques années qu'au XXIe siècle, un chef de guerre, chef d'État en combat contre la Russie serait aussi présent dans le livre. Je parle de Zelensky, bah, il est également présent, le président ukrainien. Donc il y a beaucoup de choses assez surprenantes. Mais même pendant la Shoah, en tout cas lors du ghetto de Varsovie, Emmanuel Ringelblum, hein, l'archiviste du ghetto, celui qui voulait documenter tout ce qu'il s'y déroulait, le quotidien des Juifs parqués dans ce lieu-là pendant la Seconde Guerre mondiale, a tenu aussi à noter toutes les blagues juives qui circulaient dans le ghetto. Donc on voit bien qu'il y a cette tentation continue de vouloir être accroché au rire et accroché à la manière de tourner en dérision le tragique qui nous touche et qui nous frappe. Et la Shoah, en effet, a été un sujet de rire et d'humour pour pouvoir mettre son souvenir, non pas à distance, mais de côté. Il y a par exemple cette phrase assez incroyable, parce que vous racontez des blagues, cette phrase assez incroyable de Romain Gary dans La vie devant soi. Où la vieille Rosa dit « Je garde toujours une photo d'Hitler sous mon lit. Comme ça, la nuit, quand j'arrive pas à dormir et que je pense à tous mes problèmes, à tous mes soucis, je prends la photo sous le lit, je la regarde et je me dis « Bah voilà déjà un souci en moi. » Donc voilà, par exemple, Romain Gary s'est autorisé à faire cet humour-là. Il se l'est autorisé d'autant plus qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et comme toujours, face à la tragédie, c'est d'abord ceux qui en sont la première cible, les premières victimes, qui nous autorisent ensuite à en rire. En Israël, c'est grâce à Ephraim Kishon, qui est un des survivants de la Shoah, que dans les années 60, après le procès Eichmann, la société israélienne a enfin osé faire des blagues sur la Shoah. En Allemagne, sans l'œuvre d'Edgar Ilsenrat, qui est également un des survivants et un grand écrivain juif d'humour juif, on n'aurait pas fait de blagues sur la Shoah. Donc il faut s'autoriser. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si on pourra un jour, et ils le peuvent déjà, en tout cas en Israël, rire des événements qu'ils sont en train de vivre et que nous vivons indirectement, eh bien c'est parce que ceux qui sont les premiers concernés ont osé faire déjà des sketchs. Il y a déjà à la télévision israélienne des parodies, des choses qui tournent en dérision, la tragédie qui est en train de s'abattre sur eux.
Après une matinée endiablée, Rachel se rend au marché et rencontre une amie qui l'interroge. Comment ça se passe avec ton nouveau mari, le boucher ? Eh bien, ce n'est peut-être pas un intellectuel, mais il vient d'une excellente famille. On parlait tout à l'heure de l'antisémitisme. Est-ce que finalement, travailler sur l'humour juif, c'est un thème qui est quasiment corollaire de cette thématique de l'antisémitisme, de se dire que finalement, l'humour juif, l'humour peut-être même a été inventé par les juifs, et on dit notamment en général Ashkenaz, et que ça permet de faire face à l'adversité pour ne pas sombrer ?
Alors, c'est sûr que ça permet de pas sombrer, puisque, comme je disais tout à l'heure, ça permet de pas prendre le coup pour soi, et donc, si on prend pas les coups, c'est plus facile pour survivre. Et on est moins terrassé, et moins touché, moins blessé par un coup si on se déplace. Et puis, alors, est-ce qu'il a été inventé par les Ashkénazes ? On ne sait pas. La première blague remonte à Yehuda El Harizi, qui n'était pas Ashkénaze. Donc voilà, hop, là, on casse un mythe.
Alors justement, c'est très intéressant. On dévoile tout aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom. Dans le dossier de presse, il y a des tas de questions qui sont posées, dont les réponses sont apportées dans le livre, et des choses qui ne sont pas évidentes. Et la première question, c'est ça. Saviez-vous que le premier texte attestant d'un humour juif date du Moyen-Âge ? Eh bien, je ne le savais pas.
Ah, voilà. Voilà. Alors, il se trouve que, d'abord, bon, c'est le cas, et qu'il y a peut-être d'autres personnes, parce qu'on parlait tout à l'heure de, du marronnier. Alors, il y a d'autres personnes qui l'ont évoqué, mais par contre, c'est la première fois qu'elle est racontée. Donc ça, voilà, qui est assez intéressant.
Il y a un extrait de ce texte, oui. De ce premier texte.
Ouais. Donc, en fait, il y a un texte qui est là. Et dans l'histoire, bah, au fur et à mesure, c'est comme, en fait, après, il y a une histoire, la première histoire d'humour juif française, c'est fait par, c'est au moment de la Révolution française. Donc, est-ce que c'est des Ashkénazes? Pas sûr, en fait.
Bah, lui, oui, c'est Zalkin Horowitz qui venait de Pologne, qui est devenu secrétaire à la Bibliothèque du Roi et qui, après, a été un des grands défenseurs de l'émancipation des Juifs dans des textes. Mais il n'aurait pas écrit ces textes-là avec autant d'humour s'il n'était pas baigné de l'héritage de l'humour ashkénaze dont il venait, puisqu'il venait de Pologne. Mais en effet, cette circulation et cette manière de casser les attendus sur l'humour juif a été une constante pour nous dans l'écriture de ce livre.
Alors, il faut dire qu'il y a tout un chapitre truculent ashkénaze et séfarade, les histoires de Shra aussi, qui sont une tradition hein, dans certaines contrées, et c'est vraiment très drôle. Et alors l'avantage aussi de ce livre, c'est qu'il y a des histoires qui circulent, que l'on connaît, mais il y a aussi des histoires qui sont citées d'auteurs contemporains, dont Michel Bouchna. Et alors je vais lire celle du chapitre Ashkénaze et Séfarade. Le gefilte fish. Vous avez déjà mangé du gefilte fish? Celui qui me dit que c'est bon, il est fou. C'est fade. Tu peux l'aimer si tu es Ashkénaze, ça te rappelle ton enfance, c'est normal. Dans le goemio, tu peux trouver nikitouche, couscous, boulette, mais tu ne vas jamais trouver le gefilte fish. Impossible. À la limite, les boulettes de Pâques, ça n'a pas de goût. Voilà. Et donc, il faut dire, hein, c'est pas une série de blagues qui sont posées les unes à la suite des autres. Il y a une préface qui est assez pointue, érudite sur la définition, ou en tout cas la non-définition, mais ce qu'on peut toucher de l'humour juif. Avant parfois des chapitres, il y a aussi des explications. Donc c'était important pour vous d'introduire ce livre de cette façon.
Alors c'était important pour nous aussi de montrer qu'il y avait une touche personnelle à ce livre, puisque dans la préface il y a aussi une évocation de, en fait, de l'humour pour nous, qu'est-ce que ça représente et à quoi ça nous renvoie, chacun avec sa son histoire, mais qui se renvoyait d'ailleurs à une histoire de vendredi soir autour de la table. Alors deux histoires différentes puisque c'est des traditions qui sont différentes, mais on y retrouve quand même justement ce côté que l'humour juif, l'humour ça naît d'abord dans la famille, d'abord c'est une manière de s'échapper et de se mettre en avant. C'est une manière de faire ce pas de côté, déjà, qui permet d'avoir une forme de liberté, de respiration. Et ça, c'était important pour nous de le dire, de dire aussi qu'il y avait, on avait voulu absolument qu'il y ait de l'humour séfarade, mais ashkénaze et séfarade, et aussi dans leur articulation, pour montrer qu'il y a un humour juif qui se rejoint. Il y a des histoires, donc, comme vous l'avez dit, de Djerha, il y a aussi des extraits littéraires, et il y a aussi ce qu'on voulait, parce que je dis là tout ça qui n'est pas nécessairement dans d'autres. D'ailleurs, évidemment, vous imaginez bien qu'on s'est dit « non mais on ne va pas faire le même ». Voilà, c'était très important. Et donc, tout ce qui est dans l'actualité de l'humour juif, mais aussi donc les séries israéliennes, les sketchs israéliens, je pense à Eretz Nederet, à Yehudim Baim, Moshe Nov, et il y a aussi les classiques, hein, mais on a même, chez les classiques, cherché des textes qui étaient plus inédits, et en tout cas, qui nous faisaient vraiment rire à nous. Voilà, pas de mettre des choses parce que, faut bien les mettre et faut remplir, puisqu'il y a quand même 700 pages. Non, on voulait que ça nous plaise, et c'était important qu'il y ait l'humour américain, parce que l'humour juif américain, c'est incroyable, et ces séries, aussi bien israéliennes, américaines, voire même, et aussi des films en France et dans ces différents pays qui montrent, qui font preuve de l'actualité de l'humour juif et de combien il est vivant.
Vous citez Woody Allen hein, qui dit « Les mots les plus doux ne sont pas du tout « je t'aime », mais c'est bénin ». Et en réponse Pierre Dac « Je me suis souvent demandé ce qui peut bien différencier une bonne grippe d'une mauvaise. » Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Judith Cohen-Solal et de Jonathan Ayoun, qui nous parlent de leur actualité, la parution du bouquin de l'humour juif, qui vient de paraître dans la collection Bouquins. Le livre est riche, vous l'avez dit, presque 700 pages. Comment vous avez trouvé les histoires? Est-ce que on vous en a raconté? Vous avez regardé dans des revues ou des livres qui avaient déjà paru assez éclectiques? Comment ça s'est passé?
nous avions le luxe de pouvoir aller puiser dans des endroits multiples et variés, puisque les histoires drôles circulent abondamment. Donc sur les réseaux sociaux, déjà, il y a tellement de groupes qui en parlent, il y a les livres déjà existants, et nous les avons répertoriés, puis après recatégorisés, reclassifiés, avec ce luxe de se dire, on ne retient que celles qui nous plaisent. Parce qu'en même temps, on aurait pu dire, bah, il faut remplir, donc on peut toutes les mettre. Non, on retient que celles qui nous plaisent. Donc voilà, par exemple, sur le choix des histoires drôles. Et puis après, sur les extraits littéraires, les extraits sketchs, ou les répliques de films, là, c'est vraiment lié à nos souvenirs de lecture ou à nos souvenirs de visionnage de films et de séries. C'est vraiment cet humour-là, étant donné qu'il nous a bercé chacun pour des raisons différentes depuis notre enfance. On a les références sont là. Il suffit après de les catégoriser. Vous citiez par exemple Pierre Dac et Woody Allen. Par exemple, tous les deux, on peut les retrouver dans tellement de thèmes. Donc, par exemple, il y a certaines phrases, on les a mis dans Dieu. Pierre Dac, lorsqu'il dit « Si Dieu existe, qu'il le dise, et s'il n'existe pas, qu'il ait le courage de l'avouer. » Ou alors Woody Allen, l'autre auteur prolifique cité « Non, mais je n'ai rien contre Dieu, c'est son fan club qui me dérange. » Voilà, par exemple, et là, on, tous les deux, ben, on les place dans l'entrée de Dieu. Donc après, il y a bien sûr ceux qui reviennent très souvent, comme Woody Allen, comme Pierre Dac, mais comme également, par exemple, en plus récent, Jerry Seinfeld.
Un extraterrestre entre dans un magasin du sentier et demande s'il peut acheter des vêtements pour se fondre dans la masse. Le vendeur, étonné de le voir porter une énorme chaîne en or avec une étoile de David, lui demande « Mais sur votre planète, vous avez tous un collier pareil ?»« Non, que les séfarades. » On a l'impression que le travail a été titanesque. C'est vraiment... C'est très riche. Les blagues semblent les meilleures. On pense à votre collaboration et puis on vous envie parce que depuis quelques temps maintenant, vous collaborez de manière fructueuse. Et alors, comment ça marche une collaboration? Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer? Dites-nous oui que c'est possible. Est-ce que c'est fluide? Comment on se partage le travail sur un ouvrage comme ça?
Alors, je vais paraphraser quelqu'un qui se reconnaîtra s'il écoute. Jonathan fait tout et moi je fais le reste. Alors il pourrait dire la même chose, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, il y a deux chapitres dans le livre. Il y a un chapitre, les séfarades parlent des ashkénazes, et il y a un chapitre, les ashkénazes parlent des séfarades. Et notamment, il y a une blague qui est dans les deux, c'est qu'est-ce qu'un ashkénaze? Alors on peut remplacer par qu'est-ce qu'un séfarade? Le meilleur ami des juifs. Donc, vous voyez, par exemple, alors vous allez me dire que je réponds par une pirouette, ouais. Mais d'une certaine manière, puisque évidemment tout ce que vous avez dit est juste, mais moi je vais en dire un peu, mais attends aussi, puisque on est tous les deux, ben à la fois il y a une grande complicité, il y a une grande complémentarité, on sait comment ça fonctionne, et donc on sait à peu près, mais des fois ça nous énerve en fait, que même de le savoir, ou que ça marche comme ça, des fois, et puis des fois on s'énerve parce qu'on n'est pas d'accord, et en fin de compte on est quand même...
Ça vous arrive de ne pas être d'accord?
Ça nous arrive même, et tant mieux, très régulièrement, ouais. Bien sûr. Même là, par exemple, sur le choix des thèmes. Je vais vous donner un exemple. Je peux?
Oui.
Par exemple, donc moi, je suis d'origine juive tunisienne, ce qui n'est pas le cas de Judith. Je tenais beaucoup à cette entrée Thune, parce qu'il y a une entrée, un chapitre qui s'appelle Thune.
Qui est très longue, quand même.
Qui est très longue, qui est peut-être démesurée par rapport aux autres, je reconnais. C'est vraiment avec un regard très biaisé. Tout ça, je reconnais. Et Judith, par exemple, était très en disant, mais dans ce cas-là, il faut plutôt le mettre dans Séfarade. Et donc là, c'était un point de désaccord, mais qui est vraiment à la marge. Alors, sur ce livre-là, pour le coup, nos désaccords ne sont pas très importants, pas très conséquents. Ça peut l'être plus quand on doit avoir une lecture politique des choses. Et ça peut aussi arriver, que ce soit sur nos livres sur l'extrême droite ou sur l'histoire de l'antisémitisme, là, les désaccords pouvaient produire quelque chose d'intéressant, mais pouvaient aussi être importants et on va dire... conséquents dans la manière d'écrire le livre. Là, pour le coup, c'est des désaccords qui sont dérisoires.
Moi, je suis d'accord avec vous, hein, pour la rubrique Thune. on se moque des thunes, alors pourquoi pas nous-mêmes se moquer de nous-mêmes.
Bah, c'est comme ça qu'à la fin, on a un peu réduit, donc il a fait quelques phrases en moins, et puis moi j'ai dit bon allez, c'est pas grave, de toute manière en effet c'est un choix. En contrepartie il y a trois histoires qui sont très, très très particulières, puisque elles sont c'est ma mère qui en est l'auteur.
D'accord.
Voilà, comme Sandrine, vous l'avez connue, puisque c'était la correspondante d'actualité juive à Grenoble, après avoir été institutrice.
Et... Que j'apprécie beaucoup et que j'ai bien connue. Mais alors, on les trouve comment, ces histoires?
Alors, elle est... donc, il y a Reine Mouto, elle a...
Elles sont dans Séfarade, il me semble.
Oui, elles sont dans Séfarade. Et bien, alors, on va essayer de les trouver... dans un instant.
Alors, voilà. Oui. Puis sinon, je vous en raconte une. Hein, si
alors,
vous
allez-y,
voulez.
Bien sûr.
Voilà, c'est la maison des sourds. Et donc, maison, ils sont tous sourds. Alors, le père de famille rentre à la maison et le propriétaire lui dit « Bonne année, monsieur Cohen ». Et lui, il rentre chez lui et il dit à sa femme « Oh là là, j'ai vu le propriétaire en bas, il m'a dit qu'il fallait absolument payer le loyer et c'était très important ». Alors sa femme lui dit « Oh là là, tu m'as trouvé du tissu pour faire une robe, mais c'est formidable, mais que, quelle que soit la couleur, j'en suis tellement contente ». Et alors elle va vite voir sa fille et lui dit « Tu sais quoi, papa m'a trouvé un tissu pour faire une robe ». Et la fille lui dit « Ah, oh, papa m'a trouvé un mari, mais c'est magnifique, qu'il soit grand, qu'il soit petit, je suis tellement heureuse ». Et alors elle va vite voir la grand-mère et elle lui dit « Tu sais quoi, mamie, papa m'a trouvé un mari ». Et la grand-mère la regarde et lui dit « Oh, tu sais, moi, ma fille, ce que vous mangez, je mange avec vous
». Alors on va lire quand même une blague-tune, à moins que vous en ayez une en tête.
Non, je n'en ai pas. D'ailleurs, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a plutôt des extraits sketch ou des extraits de livres, parce qu'on oublie beaucoup qu'il y a eu dans les années 80 beaucoup d'auteurs juifs tunisiens qui ont fait des livres d'humour, comme Marco Koskas ou comme Guy Sidbon.
Et Likaku.
Mais il y a eu bien sûr les sketchs. Il faut aussi.
Fortuné
Sarfati, ou la mère juive tunisienne aussi de Michel Bougenat. Et c'est quelque part tous les deux, Michel Bougenat et Likaku, qui dans les années 80-90 ont popularisé la mère juive. Et peut-être lui ont donné cette dimension universelle qu'elle avait déjà aux États-Unis, notamment avec l'œuvre de Philippe Roth, mais qu'elle n'avait pas encore en France. Et c'est donc cet apport-là de cet humour juif tunisien qui est venu faire connaître la mère juive. Là où c'était avant, on va dire, des auteurs comme Robert Castel, Philippe Clerc, qui sont venus faire connaître l'humour séfarade. Donc chacun, à son moment, apporte.
N'oublions pas quand même Comment être une mère juive en 10 leçons de Ginsberger.
Ça, c'est aux États-Unis, bien sûr.
Qui était traduit en français et qui était joué au théâtre pendant longtemps.
Alors, c'est la mère juive américaine, pas
vous
la mère juive
tunisienne. Non,
mais comment?
Allez-y.
Ah oui, c'est pas la mère juive tunisienne. Mais enfin, il y a quand même
elle
des traits communs.
Bien sûr.
Moi, je dirais que la mère juive ashkénaze est vraiment l'archétype de la mère juive. On va dialoguer, on va discuter.
Bien sûr. Et la mère juive séfarade est une des variantes, avec des formes d'expression tout de même
des
différentes.
Des variantes, tu veux dire, avec des carottes et des petits oignons.
Des salades qui sont très bonnes. Alors, une histoire de Shra. Shra entre dans un bar. Que souhaitez-vous boire? Lui demande le serveur. Une vodka, un rhum, une tequila. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est comme vous voulez. Il y a une question dans ce fameux petit communiqué de presse que vous posez et dont on ne savait pas non plus que la réponse était celle-ci. Connaissez-vous le premier juif de l'histoire biblique qui éclate de rire en apprenant la naissance de son peuple?
Oui, c'est Abraham. Donc, c'est vrai que... Alors Abraham rit, puis ensuite Sarah rit, donc ils sont plusieurs à rire dans cette histoire. Et je pense à Elie Wiesel qui parlait beaucoup du rire de Dieu d'une autre manière, mais en effet, il y a du rire très vite dans l'histoire biblique.
Alors je pensais que c'était une autre réponse, et que c'était pas la Yitzhak, celui qui rit, mais que c'était une autre réponse. Bon, comme quoi, voilà, on peut...
Non, c'est Abraham quand Dieu lui dit qu'il va enfanter un
peuple.
Oui, donc c'est Abraham qui rit en premier, ensuite Sarah qui rit. On va lui reprocher à elle de ne pas avoir cru, mais Abraham aussi a ri. Et ensuite, donc l'enfant est appelé Yitzhak, ce qui veut dire il rira.
Une autre question, saviez-vous que les différents personnages de la série télévisée Seinfeld de Larry David, considérés par les Américains comme le plus grand sitcom de tous les temps, incarnent les caractéristiques des figures types de l'humour juif?
Oui, c'est une série assez incroyable. Jerry Seinfeld et Larry David, et qui donc n'ont cessé de puiser dans la littérature yiddish du 19e siècle, et particulièrement dans l'œuvre de Sholem Aleichem. Et on retrouve dans les quatre personnages qui sont aujourd'hui des stars aux États-Unis, mais qui sont. Nous, ici en France, on connaît Friends, mais aux États-Unis, Seinfeld est l'équivalent de Friends dans la culture populaire américaine. On n'en prend pas la mesure. Et ces quatre personnages-là sont, que ce soit le oisif, le malchanceux, celui qui est dans l'autodérision, ou celle à qui il arrive tous les malheurs du monde, on retrouve beaucoup de cet humour yiddish du 19e siècle. Et finalement, c'est dans une seconde série que Larry David, avec cœur, meilleur enthousiasme, Larry et son nombril, traduction en français, qui est visible sur les plateformes aujourd'hui en France, a reconnu cette influence. Et là, il utilise beaucoup de mots yiddish. Donc on voit bien à quel point cet humour juif ne cesse de se réinventer, mais toujours en s'appuyant sur l'humour juif qui l'a précédé. Et par exemple, on parlait juste avant de cet humour séfarade français. Par exemple, Gad Elmaleh, lui, ne cesse de revendiquer sa filiation avec cet humour juif américain de Seinfeld, qui, lui, ne cesse de revendiquer sa filiation avec l'humour juif yiddish du 19e siècle. Donc on voit bien à quel point il y a un trait d'union entre ces humours juifs qui sont pourtant au pluriel.
Tata Julie discute avec une amie. Je laisse toujours le dernier mot à mon mari, raconte-t-elle. Tu es bien patiente, ça ne te ressemble pas pourtant. J'ai oublié de te préciser que c'est chaque fois « oui, chérie ». Évidemment, on a aussi envie de vous demander sur quel projet vous avez envie de nouveau à travailler ensemble. On a l'impression que ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça devient des références sur les psys, sur Kessel, sur l'antisémitisme. Maintenant, ce bouquin de l'humour juif qu'on peut tous avoir chez soi. Et puis, de temps en temps, lors d'un dîner avec des amis ou simplement pour se faire du bien, on peut y picorer les histoires qu'on a envie d'entendre pour nous changer les idées. C'est quoi le prochain sujet de votre collaboration? Est-ce qu'on peut en parler?
Il est difficile d'en avoir un, d'ailleurs, en particulier, on aime toujours en avoir plusieurs. Et là, ils sont encore trop en développement pour pouvoir en parler plus amplement. Mais si ce n'est peut-être d'évoquer un nom qui a eu une traversée, une vie aussi incroyable que celle de Joseph Kessel, qui est Romain Gary. Et que nous retrouvons aussi beaucoup dans ce bouquin d'humour juif. C'est peut-être même un des auteurs français les plus cités. Et pour lui, d'ailleurs, l'humour était une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et c'est peut-être une des plus belles définitions de l'humour juif. Après, sa définition de l'identité juive était, elle, plus particulière. Il disait, c'est une manière de me faire chier. Donc voilà, de quelqu'un qui est là tout le long de ce bouquin, dans tellement de thèmes différents, et qui a su à la fois apporter à la France une littérature formidable et venir raviver ce qu'est l'humour juif et le reconnaître et l'affirmer, ce qui est plutôt rare dans les grands écrivains français, de se reconnaître auteur d'humour juif.
Il y a une question classique, mais non moins compliquée hein, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, chacun à votre tour, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux éditeurs de la Fréquence juive de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez, Judith?
Comment une mère juive change une ampoule? C'est pas grave, mon fils, je resterai dans le noir.
Et vous, Jonathan?
Eh bien, pour donner une déclinaison de cette blague, il y a par exemple le personnage de la Jewish American Princess, qui est aussi un personnage caricaturé qu'on retrouve beaucoup dans l'humour juif. Et donc, si on lui demande comment une Jewish American Princess, fait pour changer une ampoule, elle fait deux choses. Elle ouvre une canette de Coca-Zéro et elle téléphone à son père.
Si on peut dire quelque chose, c'est que là, on a une petite expérience qu'on était dans différents salons du livre. Et il y a plusieurs personnes qui se sont approchées et nous ont dit « Bon, mais j'en ai déjà plein. » Et là, on fait ce test. Hein. On dit « Écoutez, ouvrez le livre n'importe quelle page, lisez et puis vous verrez. » Et à chaque fois, les gens ont ri et à chaque fois, ils ont dit « Ah bah tiens, celle-là, je ne la connaissais pas. »
Merci infiniment Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun d'avoir accepté de nous parler de votre actualité, la plus récente, hein, la parution de ce bouquin de l'humour juif. Alors on va pas dire hein, mais que c'est le livre qu'on a vraiment envie de lire en ce moment. Et puis le livre peut-être qu'on a envie d'offrir. Pour les fêtes de Hanouka, parfois on vient avec un bouquet de fleurs ou c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais là c'est un livre qui pourrait être interactif, où on pourra utiliser et lire des blagues durant le dîner, l'allumage des bougies et vraiment merci parce que c'est le livre feel good du moment. Bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir Sandrine, merci beaucoup pour cet accueil.
Le Centre d'art et de culture et le FSJU, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute notre programmation est sur le site culture-juive.fr.